Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on fête un anniversaire, les 40 ans de Longomaï. Hannes Reiser, dès le début, Longomaï, c'était une utopie politique, une idée politique, le fait de quitter la ville pour aller s'installer dans des villages, des régions en voie de désertification.
Longomaï, c'était à l'initiative créée par des groupes politiques. C'était Hydra et Spartacus de Vienne. Et on était tout un réseau à travers l'Europe de groupes d'apprentis, de groupes de jeunes qui étaient engagés. Et c'était une sorte de mouvement politique assez original, qui n'était pas très théorisé, pas tellement les choses, mais qui partait des besoins élémentaires des jeunes qui ne sont pas remplis, qui ne sont pas répondus par le système de consommation capitaliste.
On est au tout début des années 70, c'est ça ?
Oui, début des années 70. Alors, c'est une fédération de groupes, on pourrait dire une sorte anarcho-syndicaliste, qui avait un réseau à travers l'Europe.
C'est ce qu'on appelait à l'époque les gauchistes, l'extrême-gauche, ou c'était encore autre chose ?
Non, c'était autre chose. C'était une catégorie. On a oublié de nous mettre une étiquette parce que nous étions trop petits en tant que mouvement, mais assez original. Nous pensions que les syndicats, c'est déjà très structuré, ça fait partie du système. L'Europe de l'Est, avec leur capitalisme d'État, c'est déjà très structuré, ce n'est pas notre utopie. Les mouvements incrustés, tout ça, ça ne faisait plus partie d'un rêve, d'une utopie ou d'une révolution potentielle, mais du système. Et à l'époque, nous avons essayé de fédérer toutes les luttes qui émergeaient à travers en Europe. On lisait les journaux, quand il y avait une grève sauvage quelque part, on est allé. 4 ou 5 personnes, nous avons regardé qu'est-ce que vous faites, comment nous pouvons être solidaires avec vous, comment on peut établir des liens à travers les frontières sans monter l'échelle hiérarchique des syndicats, mais en direct, ouvrier avec ouvrier.
Mais directement, de manière européenne. C'est-à-dire que vous avez tout de suite eu cette volonté de franchir les frontières.
Tout de suite, oui, nous étions peut-être un petit groupe, mais pas modeste. Et c'est l'idée, c'était constituer un nouveau mouvement ouvrier européen à partir des grèves comme l'IP, les occupations d'usines, Schirmeck en Alsace, il y en avait partout. Et c'est là que nous avons découvert les régions abandonnées. Parce que ça, c'était le début de la désindustrialisation de l'Europe, qui est maintenant, elle est accomplie, plus ou moins. Et à l'époque, c'était le début et ça commençait en premier dans les régions périphériques, qui était industrialisé par l'État national pour avoir une distribution égale des revenus et de l'industrie. Et c'était les moins rentables, cette entreprise-là, ces entreprises qui ont fermé en premier. Et nous sommes partis en tant que jeunes gauchistes citadins dans ces régions, apporter notre petite solidarité. Et les gens qui étaient là, ils étaient vachement contents qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse de leur sort ou de leur région. Et c'est à travers ces actions de solidarité que nous avons découvert le phénomène de régions abandonnées en Europe. Des zones entières qui se dépeuplent.
Mais oui, mais alors ce qui est curieux, c'est que vous me parlez de désindustrialisation, alors qu'on a plutôt l'impression que vous êtes allé dans les lieux de la déprise agricole.
Nous, on ne faisait pas non plus une séparation entre lutte de paysans ou lutte ouvrière. Il y avait une grève de lait en Bretagne. On a lu ça dans Le Monde, on a pris une voiture, on est allé voir les gens, on a découvert Gérard Lambert à l'époque, qui venait issu des mouvements des chrétiens ruraux et qui était en fait après le fondateur de la Confédération paysanne. On les connaissait déjà. Et quand il y avait en Suisse, en Autriche, quand il y avait une grève des vignerons en Autriche, on a fait une action de solidarité. Quand il y avait une grève du lait dans le Emmental en Suisse, on est allé rencontrer les gens.
D'accord, donc vous alliez aussi bien du côté des grévistes agricoles, ruraux, que du côté des grévistes de l'industrie.
Oui, en fait, c'est pas la différence.
Néanmoins, vous avez quand même choisi de vous installer non pas dans une région industrielle en pleine déshérence, comme il commençait à y en avoir effectivement à l'époque, mais vous êtes allé, la première coopérative, elle est du côté de Fort-Calquier. Donc là, on est vraiment dans un des lieux de la désertification rurale.
À un moment, la situation politique, avec toute cette chasse aux terroristes, cette polarisation, en ville, il n'y avait plus grand-chose à faire pour un groupe comme nous.
Pourquoi?
Parce que la répression, elle était quotidienne. Il y avait vraiment une chasse aux sorcières, une criminalisation de tout ce qui est une idée communiste ou une idée anarchiste. C'était complètement criminalisé. Et les intérêts du capital étaient très forts dans les villes. Et c'est là qu'on a eu l'idée justement de faire un pas en avant, de pas toujours être la personne qui court derrière les événements, de créer un événement nous-mêmes et de faire autre chose. Et nous avons choisi la région des Alpes de Haute-Provence pour notre première coopérative.
Pour vous, ce n'était pas seulement un changement de décor, c'était un changement de vie.
Oui, c'était un changement total. Mais nous vivions déjà en collectivité, nous vivions déjà en communauté citadine. Pour nous, c'était normal d'avoir une caisse commune, de vivre ensemble dans la même maison ou dans le même appartement. C'était déjà un peu anticipé.
Qu'est-ce que c'est que ce texte, Peter Gerber?
Die Krise in Angriff, c'est un texte qu'on a écrit en 1972. Et c'est un essai d'une analyse de la situation à l'époque, il y a très longtemps, alors maintenant. Et ce qu'on ressent au niveau de l'Europe, tous les défis pour les jeunes aujourd'hui, avec, on parle des régions abandonnées, des paysans qui sont chassés. Une surindustrialisation en Europe. On parle beaucoup de choses d'intéressantes, mais on parle aussi au niveau énergétique. On a une analyse qu'on ne pourrait plus défendre aujourd'hui.
C'est-à-dire?
Ben là, on avait, je peux traduire, hein, c'est l'Europe est devant la ruine au niveau des matières premières et de l'énergie. Et ils disent, ou nous disons, oui, ce qui est vrai, que beaucoup trop basé sur le pétrole et le charbon. Par contre, là où on ne pourra plus signer maintenant, on prétend que l'énergie atomique, c'est la seule énergie de l'avenir où il n'y a pas eu assez d'investissement et qui n'est pas assez développée.
Il n'y avait pas vraiment de préoccupation environnementale à l'époque dans le groupe de Longomaille, Peter Gerber?
Je dirais que. Pas qu'il n'y en a pas, parce que la terre, les sources, il y a plein de choses qui nous ont touchés. Mais ce qui est vrai, qu'on n'avait aucune idée de ce que c'est une agriculture durable ou biologique. Et c'était plutôt vers une menace d'une société qui va de plus en plus vers un contrôle qui est hyper contrôlé et qui nous a préoccupés que des problèmes d'environnement où on était honnêtement. C'était pas. On connaissait pas. On connaissait peu.
Même en agriculture, vous avez dû tout apprendre. Comment est-ce que vous avez appris?
On a appris sur le tas. Il y avait très peu de fils de paysans. Heureusement, il y en avait un peu. Il y avait Gilbert, il y avait quelques, mais il y avait très peu. Et les autres, comme moi et plein d'autres, on venait des villes. On n'avait strictement aucune idée de l'agriculture. On était de bonnes. Volonté, mais on a suivi les conseils, entre autres, de notre ami Pierre Pellegrin, qui est un poète berger de l'époque, qui nous a appris beaucoup de choses, qui avait une connaissance approfondie de l'agriculture, mais je dirais quand même très classique. Et nous, on avait la conviction de gens qui savent en réalité pas très bien, mais on avait la conviction des autres paysans classiques que c'est un peu de la rigolade. Et après, on a appris avec l'histoire, mais c'est vrai qu'au début.
Et oui, parce que voilà, aujourd'hui, vous êtes en agriculture biologique, vous essayez toutes sortes de techniques qui sont des techniques très actuelles de l'agroécologie, le sans labour, les BRF. Enfin, vous avez totalement changé. Alors, comment est-ce que ça s'est passé, cette évolution? Vous vous en souvenez? Vous avez suivi ça?
Bon, moi, j'ai très bien suivi ça parce que ça faisait aussi avec un changement quand nous avons commencé avec la coopérative du Master Granier. Parce qu'à Fort-Calquier, c'était quand même des terrains pauvres. On n'a pas travaillé avec des désherbants. On ne peut pas nous reprocher qu'on était des gros utilisateurs de pesticides. Et dès qu'on est allé en Croix, on était au milieu d'une agriculture hyper industrialisée avec les pêches, les serres. Et très très vite, ça a duré une demi-année, et c'était clair que nous, là-bas, on veut être officiellement une agriculture biologique certifiée parce qu'on ne voulait pas faire la même chose que les autres.
Démarrer dans la bio, c'est comme si on attrapait un bout de fil d'une pelote et qu'on s'aperçoit que cette pelote est extrêmement longue et qu'il y a énormément de choses qui se passent.
Ben nous, ça nous est exactement tombé sur la tête de cette manière parce qu'après on a décidé, alors maintenant nous sommes bio. Et on a fait comme les autres paysans bio, mais qui étaient quand même très contraints de produire beaucoup, et même des bio. Mais à l'époque, la plupart des semences n'étaient pas du tout bio, c'était des semences déjà hyper industrialisées. Et en plus, à l'époque, tu avais le droit d'utiliser de la semence non bio si tu pouvais montrer que cette variété n'existait pas. Et après, vu dans notre logique de maîtriser la filière, on commençait à faire les plans nous-mêmes. On regardait de plus près aussi les semences. Il y a dans d'autres coopératives, ils travaillaient aussi déjà beaucoup plus l'autosubsistance parce que nous, c'était un peu quand même vers une vente aussi. Et finalement, bon, ça a pris quelques années. On a décidé de laisser tomber volontairement toute semence industrielle et hybride. Pas pour des raisons pratiques, mais vraiment pour des raisons de conviction qu'on ne veut pas être dépendant des multinationales. Et ça nous a coûté beaucoup de travail et aussi de chutes de rendement et de le besoin qu'on voit très bien maintenant. Il faut effectivement être nombreux pour développer des semences de qualité bio. On ne peut pas faire ça tout seul, c'est beaucoup trop de travail.
Donc ce travail assez important, difficile sur les semences. Et puis la vente, c'est la vente en circuit court, la vente directe à la ferme.
Bah oui, c'était uniquement vente circuit court. À l'époque, on a commencé à vendre, quand nous avons démarré le Master Granier, en gros, on est allé sur le marché d'intérêt national à cette ligne de Grèce, parce qu'on n'avait établi aucun réseau de vente, on n'avait encore rien. Et on a vu comment ça se passe. Pour nous, c'était très intéressant à comprendre comment le petit paysan est traité et comment ça va avec les gros qui amènent des quantités importantes. Et ça nous a suffi d'aller 5-6 fois pour voir que nous, on ne pourrait jamais trouver notre bonheur là-dedans. Et déjà la première année, après, on a créé des marchés.
On est en 94?
Non, ça c'était tout à fait au début. 90, on a démarré le MAS. Et je pense déjà 91, 12, on en a fait un moment 5 marchés par semaine. Il faut dire, on était une équipe assez importante pour assumer ça. Et après, à partir de 93, 14, on a commencé à développer aussi les paniers, mais doucement. On avait une cinquantaine, mais on commençait à développer aussi ce système de vente. On avait le magasin qui était ouvert tous les jours. Il n'y avait pas beaucoup de clients, mais quand même, on avait des clients réguliers. Vu qu'il y avait toujours dit, il y avait des petits-enfants et des mamans qui étaient sur place, ça, c'était possible de le faire. Mais c'est vrai que c'était un travail, on l'a arrêté, parce que si on fait un magasin, il faut quand même deux ou trois personnes qui sont autour du MAS, qui regardent qu'il y a toujours de la salade fraîche, que c'est joli, que c'est de la qualité. Là, pour l'instant, on a décidé, au niveau magasin, légumes frais, on a arrêté.
En revanche, vous avez démarré un autre projet, une conserverie qui vous permet à la fois de transformer vos propres surplus de légumes, mais également de mutualiser en quelque sorte l'outil avec les autres petits producteurs locaux.
Ouais, ça c'est une histoire, je dirais, en toute modestie quand même, un beau succès. On est tombé sur une taille qui est vraiment bien, qui n'est pas du tout une usine, mais qui dépasse la cuisine de la grand-mère et où on peut effectivement maintenant on accueille une vingtaine de paysans qui viennent transformer leurs propres produits. Et nous aussi, Fort-Calquier, ils transforment leurs fruits et tout ça chez nous. Nous, on a une gamme de légumes transformés et on a plutôt envie de développer ça pour les prochains temps.
Peter Gerber, dans la plupart des activités que vous avez énumérée, vous avez beaucoup insisté sur la nécessité qu'il y ait beaucoup de monde. En fait, la difficulté, c'est effectivement d'avoir une main-d'œuvre suffisante, c'est-à-dire d'avoir un nombre de coopérateurs suffisant pour faire face à tous ces travaux. On est exactement dans l'inverse de ce qui se passe dans la grande agro-industrie, où il n'y a pratiquement plus personne pour travailler sur des centaines d'hectares.
Oui, c'est une réalité qu'on n'a pas résolue à 100%. On a quand même la chance qu'il y a beaucoup de jeunes et de moins jeunes sympas qui passent les derniers temps et qui nous donnent des coups de main quand même très appréciables par rapport à des grandes récoltes, des choses comme ça. Par contre, pour maintenir un outil ou pour développer une gamme, là, par contre, ça ne suffit pas. Là, on est notre noyau. On est, je pense, pour le moment, un peu trop restreint, trop petit. Et on espère, mais heureusement, il y a déjà des jeunes qui se sont intégrés vraiment. Mais on espère qu'on arrive effectivement à se développer parce qu'on aurait encore beaucoup plus de travail à faire, à assumer ou à développer. Il y a des idées de faire du pain aussi pour la vente. Il y a d'autres idées, justement, élargir la gamme de conserves, autre chose. Mais ça, on ne peut pas le faire, effectivement, si on n'est pas un noyau assez important qui peut se partager le travail, parce que personne ne veut le faire 24 heures sur 24. En même temps, tu n'apprends pas ça dans 3 mois. Ça, c'est vraiment pour des gens qui restent des années chez nous, qui peuvent prendre ça réellement en main.
Petit Sievers, un des éléments qui reviennent très souvent dans les récits de Longomaille, sur Longomaille, autour de Longomaille, c'est ce qu'on appelle la filière laine. Alors qu'est-ce que c'est que cette filière laine et pourquoi est-ce qu'elle est si importante, pourquoi est-ce qu'elle est si souvent évoquée, citée comme une des réussites de Longomaille?
Quand moi je suis arrivée à Longomaille en 78, on nous a appris, tous les gens qui sont arrivés à ce moment-là, que la microéconomie qui base sur l'économie de ces 3 pieds est très importante. Ça veut dire l'agriculture, élevage et artisanat. Et pour nous, à l'époque, c'était très intelligible comme démarche. Et cette démarche, on le poursuit encore. Et justement, la laine, c'est un produit de l'élevage. Et la laine était le produit brut avec lesquels nous, on voulait faire des produits finis. Donc, Longomaille a eu l'occasion d'acquérir la filature de Chantemerle. Je crois que c'était 2 ans avant que je suis arrivée. Je crois que c'était en 1976.
Donc, c'était une ancienne manufacture de tissage
De toile, de fil. Et à l'époque, dans cette ancienne filature, les éleveurs de l'environ, ils pouvaient amener leur laine et ils recevaient des couvertures ou des produits finis pour ça. Ça veut dire que cette filature, elle a eu une nécessité pour les gens qui vivaient de l'élevage. Et en fait, nous, on a pensé dans la même logique que les produits finis peuvent donner aux éleveurs une ressource pour leur vie et pour leur économie. Et nous, on a repris la filature. On a appris de l'ancienne propriétaire de la filature comment ça marche. Et à fil à aiguille, on a appris tout le fonctionnement. On a remplacé des machines pour simplifier la chose, la production. Et en fait, l'importance de la laine vient de cette idée de la microéconomie. Et pour nous, qui étaient un peu les premiers qui arriver à faire des produits, c'était un peu une expression de notre pensée. Alors, chaque pull qui se faisait, ou chaque modèle, ou chaque couverture, était un peu la preuve de la véracité de notre idée. Donc, l'engagement, il était très fort dans ceux qui ont développé la production.
C'était aussi une façon de tenir une production du début jusqu'à la fin, c'est-à-dire...
Ça, évidemment. Parce que la laine brute venait de nos moutons, de nos troupeaux à différents endroits, et des troupeaux des gens d'environ, des éleveurs. Et on a, en même temps, on a développé l'idée que les éleveurs font plus attention à la qualité de la laine, parce que la laine, elle était en chute de prix. Alors les éleveurs, ils faisaient la reproduction un peu n'importe comment. Et nous, on voulait réintroduire la sélection par rapport à la qualité de la laine. Et en achetant la laine, et à l'époque, maintenant c'est un peu mieux, je crois, c'était comme ça que les éleveurs, ils jetaient la laine parce que ça ne valait même pas le prix des gens qui
faisaient de la tente.
Et ça, c'était une idée d'introduire cet regard sur la qualité de laine. Et on achetait la laine sur un prix vraiment juste par rapport à la qualité.
Est-ce que ce n'était pas compliqué dans une économie qui était jusque-là essentiellement agricole, puisque les jeunes qui sont arrivés à Longomaille ont quitté les villes pour apprendre les métiers de l'agriculture? Là, il s'agissait d'un domaine complètement nouveau, puisque passer à une petite usine, à un travail ouvrier sur des machines, c'était encore complètement autre chose, à la fois par les techniques et les savoir-faire que ça demandait, mais aussi peut-être par les rythmes que ça implique, les rythmes de travail.
Les rythmes de travail, on ne faisait pas vraiment attention à ça. On était engagé dans un processus et on faisait ce qu'il fallait faire. Et à l'époque, ça ne jouait pas sur les choix.
Hannes Reiser, si on revient à la question politique, puisque vous évoquiez les débuts extrêmement politiques de Longomaille, le fait que dans les coopératives, on ait à ce point appris les modes de vie agricoles, qui étaient effectivement importants dans la recherche d'une autonomisation de chaque coopérative, n'a jamais tari la fibre politique. C'est-à-dire que tout au long de ces 40 années, ça a été très important pour les gens de Longomaille de continuer à être de plein pied dans un certain nombre de dossiers, je dirais, politiques qui vous paraissaient particulièrement importants. Est-ce que vous pourriez peut-être en évoquer quelques-uns ?
Oui, notre attitude, c'était toujours la politique, il ne faut pas la déléguer aux politiciens ou aux professionnels de la politique. Nous ne sommes tous pas des analphabètes, nous avons reçu une bonne formation, nous savons voyager, nous savons organiser des moyens, nous pouvons écrire des articles, nous pouvons intervenir, etc. Alors, c'était toujours des actions assez exigeantes qu'on a menées avec des buts assez élevés. Un exemple, c'était le Chili. C'est déjà 73, nous avons suivi l'expérience d'Allende. Déjà 72, nous avions créé une société des Amis du Chili pour organiser des échanges entre communes, entre profs, entre maires, entre artisans, etc., entre la Suisse et le Chili, pour envoyer des témoins comme une sorte de casque bleu, parce qu'on savait que ça ne va pas durer longtemps, on ne va pas le tolérer. Alors on voulait faire un échange maximal entre la Suisse et le Chili. Et nous avons demandé au gouvernement suisse d'accueillir des réfugiés du Chili. Parce que là, Pinochet, c'était vraiment une répression sanglante, des milliers de morts. Mais il y avait la possibilité, il laissait partir les gens encore dans la première phase.
Vous avez eu, à cette occasion, une idée d'action originale et très intéressante. Les places gratuites ?
Oui, on avait le refus total par le gouvernement parce qu'ils ont dit que la population suisse ne veut pas des réfugiés qui viennent des continents extérieurs de l'Europe. Et bon, là, nous avons fait un appel à toutes les communes suisses, de droite et de gauche, à toutes les paroisses, et nous avons reçu des milliers d'offres de places. Et on a commencé à structurer ça, à organiser des réunions régionales pour regrouper les gens. Et après, on est retourné au gouvernement et on nous a dit, voilà, la population est pour l'accueil. Nous avons déjà 3000 places. Tout est garanti, la nourriture, les gens, ils ont trouvé du boulot, ils ont trouvé des traducteurs, ils ont trouvé des médecins, tout ce qu'il faut pour accueillir les réfugiés. Et le refus était clair, non. Après, le ministre de l'époque, il a dit, vous n'avez qu'à les chercher vous-même. Alors, on s'est dit, bon, il ne faut pas nous le dire deux fois. Et nous avons constitué une délégation qui est un mois après le putsch, et ils sont allés à Santiago. Et finalement, nous avons, à travers l'Italie, la Suisse, elle a tout de suite introduit l'obligation de visa pour bloquer nos réfugiés. Et alors, nous avons fait une filière à travers l'Argentine, Milan, l'Italie du Nord. Et après, les gens, ils sont rentrés. en Suisse, à travers la frontière verte, avec un mouvement large de la population. Même le procureur du canton du Tessin a passé des Chiliens à travers la frontière. Et finalement, les 3000 personnes sont venues, ils étaient là.
Hannes Reiser, on aimerait vous écouter raconter chacune des histoires avec autant de détails, parce que c'est vrai que c'est des aventures à chaque fois, mais on n'y arrivera pas. Donc peut-être que vous pourriez nous faire une petite liste en donnant à chaque fois un ou deux détails éventuellement.
Après, c'était l'essai au Paraguay d'anéantir les coopératives des Guaranis, qui étaient des indigènes qui étaient en autogestion. Et ils étaient occupés par le gouvernement Stroessner. Et nous avons en Suisse mobilisé l'importateur de viande pour organiser un boycott de toute viande du Paraguay. C'était l'essentiel. Et nous avons fait des interventions aussi directes auprès de multinationales qui travaillent. On a dit, on va vous rendre responsable pour chaque mort qu'il y aura encore en plus. Ce qui a donné assez de pression sur le gouvernement Stroessner de libérer les leaders du mouvement coopératif du Paraguay qui étaient incarcérés et ils étaient acquittés.
Bon, mais les autres actions, citez-les-moi simplement, Hannes Reiser.
Il y a tout l'échange avec l'Est. Après la chute du mur, on s'est dit, il ne faut pas pleurer parce que maintenant l'autre utopie, elle s'est cassée la gueule parce que c'était d'abord pas notre utopie. Et d'autre part, il ne faut pas abandonner l'Est maintenant aux investisseurs capitalistes. Il faut aussi créer des réseaux sociaux à travers les frontières. On n'a pas parlé des actions du CEDRI, la défense du droit d'asile en Europe. On a créé ça de la même manière. Dès qu'on entendait un petit groupe qui défend un réfugié, on est allé les voir. Et après, il y avait des centaines de groupes. On a essayé de les fédérer à travers les frontières. On était vraiment au début du mouvement asile en Europe. Après, c'est d'autres institutions beaucoup plus professionnelles qui ont repris la relève. Mais on a quand même donné, déjà avec l'action Place Crite, un coup de départ. Et il ne faut pas oublier toute la fenêtre sur l'Afrique qui était en permanence ouverte à Longomaille. Il y avait tout le temps des échanges culturels avec des groupes de musique, avec des gens de village, à travers des sans-papiers qu'on a planqués dans nos coopératifs. Il y avait des liens et maintenant il y a une grande action pour empêcher une mine d'uranium dans un village au Mali qui va bousiller toute la région si on va le permettre. On n'a pas parlé des lejidos, ça veut dire la solidarité avec les sans-papiers en Andalousie.
Avec les travailleurs agricoles.
Avec les travailleurs agricoles ils n'ont pas de statut légal, qui sont exploités. Et là, on essaye qu'ils s'organisent en syndicats.
Il y a eu les Kurdes aussi.
Les Kurdes, c'était dans le cadre du CEDRI. C'était dès qu'il y avait le putsch en Turquie, la Suisse a introduit le visa pour tous les Turcs. Et d'abord, il y avait la première vague, c'était les universitaires qui venaient, après des syndicalistes. Et en dernière vague, sont venus les Kurdes. Et là, on a vu aussi, tout en Europe, il y avait l'essai de déclarer les mouvements politiques kurdes comme groupes de terroristes. Et là aussi, on s'était engagé. C'était assez chaud.
En Europe, il y a eu la guerre de Yougoslavie.
Oui, c'est la même chose. La guerre de Yougoslavie, tout le monde a regardé devant la télé. Ah, maintenant, il y a encore de nouveau la guerre sur le terrain européen. Qu'est-ce qu'on peut faire? C'est tellement grave. Il faut envoyer nos armées, etc. Et pourtant, il y a 400 millions d'Européens. Et s'il y a même seulement 1 sur 10 qui irait sur place, il n'y aura plus de possibilité de faire la guerre. On sous-estime toujours les possibilités qu'on a en tant que simple citoyen de se mêler. On se met à 4 ou 5 personnes, on a quelques idées et on fait quelque chose. Nous, on voulait décriminaliser les déserteurs. On faisait une campagne très large pour ça. Une autre question, soutenir toutes les communes qui sont encore multiculturelles, parce que c'est une guerre entre les cultures. Soi-disant guerre entre les cultures. Et là, on a fait cause commune, on a fait un appel aux communes en Europe de se jumeler avec les communes qui sont multiculturelles. Et ça, c'est un mouvement qui est devenu autonome après et qui a eu quand même des effets, qui sont maintenant les pôles de développement alternatif dans le Balkan.
Cette dimension européenne, Hannes Reiser, elle a aussi donné naissance à deux organismes, deux groupes de réflexion et d'action qui sont d'une part le Forum civique européen et puis le CEDRI. Alors le CEDRI, il faut que vous me redisiez ce que ça signifie.
Le CEDRI, c'est le Comité européen pour la défense des réfugiés et des immigrés. Mais en fait, ça, c'est des carcasses administratives. Ce n'est pas ça qui est important. Parce qu'un élément de nos actions politiques, c'était pour nous, la continuité, ce n'est pas de continuer une action ou une lutte politique éternellement. Parce que chaque lutte politique, elle a des phases ascendantes, elle a des phases super, après elle a des phases descendantes. Et souvent, il y a les gens qui ont commencé l'action, ils l'institutionnalisent, ça devient ennuyant, ça crée des postes, et ça crée des institutions, et ça crée de nouveau des gens ennuyants, et qui empêchent les jeunes de se politiser. Alors notre principe, c'était toujours mener une action, mobiliser des gens, sensibiliser les gens, garder le résultat, ça veut dire le réseau de contact, et après, à la fin de l'action, on rentre dans nos coopératifs, et on plante des carottes, et des choux, et des patates. Et on laisse ça aux autres, ceux qui aiment bien, mais nous, en fait, on n'aime pas tellement s'institutionnaliser. Notre continuité, ça, c'est les coopératives. Il faut, pour donner une image à une action, il faut donner un nom et créer des statuts. Aussi pour le soutien financier, c'est nécessaire, mais c'est en soi, pour l'action politique, pas tellement nécessaire.
Cette question du financement des actions, justement. Longomai a toujours cherché à financer ses actions politiques. C'est à la fois quelque chose qui est assumé, voire revendiqué, et c'est aussi souvent un reproche qui est fait à Longomai.
Alors moi, je trouve que c'est aussi un signe d'intelligence de se donner les moyens quand on a des bonnes idées. Et il y a des techniques, et il suffit de le faire. Et je dis à tout le monde, il y a plus de possibilités que l'on croit. Et quand on a une bonne idée, quand elle est convaincante, quand on fait directement, on trouve toujours des gens qui sympathisent, qui soutiennent et qui donnent aussi les finances nécessaires pour être opérationnel. Et moi, je trouve qu'il faudrait plutôt apprendre de Longomai, d'être un peu plus pragmatique et pas toujours dépendre des institutions de subventions ou de se limiter parce qu'on n'a pas les moyens quand on sent le besoin fort de faire une action.
Ika Dekker, quand on discute avec les membres de Longomai, quel que soit le sujet abordé, on s'aperçoit que le facteur humain est extrêmement important. Est-ce que vous diriez ça, vous aussi ?
Oui, bien sûr. Moi, c'est le début où ça m'a pris le plus tout de suite le cœur. En fait, c'est quand je suis arrivée avec mon sac à dos dans la coopérative en Carinthie, en 82. J'ai ouvert la porte et il y avait un groupe de gens autour d'une table carrée et qui étaient en train de manger ensemble, en train de rigoler. Et je me suis dit, là, je veux être avec eux. Voilà. Et ça, ça m'a pris tout de suite. Et ça comptait plus dès le début, plus que tout le truc politique et même agricole. Alors.
Enfin, vous dites ça compte plus. En tout cas, ce qui est certain, c'est que ça conditionne également les actions politiques et autres. On a l'impression que c'est un des moteurs, sinon peut-être le moteur.
Ouais, parce que je pense au niveau des idées et la politique, on peut se trouver avec beaucoup de gens, mais là où une action, tu peux vraiment le mener ensemble, c'est il faut s'entendre humainement, quoi. Sinon, ça marche pas. Parce qu'il faut aussi pouvoir se battre et discuter ensemble sans se fâcher, sans claquer les portes. Il faut continuer toujours. Alors, il faut sentir l'ouverture chez l'autre pour mener ensemble les choses jusqu'au bout.
Et comment est-ce que ça se traduit dans votre expérience, à vous, concrètement, à Longomai ? Vous vous occupez d'agriculture, de semences ?
Oui, je suis jardinière. Les dernières années, je travaille plus avec les chevaux de trait. Mais le côté semences et aussi action politique, ça compte beaucoup. Et on a fait à partir de notre coopérative allemande avec deux autres, on a mené par exemple les dernières années la campagne pour la souveraineté sémencière. Là-dessus aussi, on se rend compte qu'avec certains gens, ça marche super. Avec d'autres, tu as plus de problèmes pour se sentir ensemble.
Voilà, nous, dans nos actions, on a envie de s'entendre d'abord et de se bien aimer. Et après, on se trouve toujours sur le niveau d'une campagne ou d'une action. Et on n'a pas envie de mener des batailles de coq, quoi, en train de faire un truc politique, parce que ça n'a pas de sens. Parce que souvent, on n'a pas des idées non plus complètement arrêtées sur un truc ou un chemin à y aller ou une opinion, quoi. C'est aussi quand on fait une campagne ensemble, c'est aussi un travail d'ensemble de se former l'opinion, de savoir où est-ce qu'on veut mettre les choses les plus importantes.
Mais alors, il y a quand même quelque chose qui est assez spécifique à Longomaille, c'est que du fait qu'il y a quand même beaucoup de personnes, il y a plus de 200 personnes, qui sont membres des différentes coopératives, du fait aussi de la très grande proximité tous les jours, ça crée une sorte de groupe d'univers humain qui se suffit à lui-même, en quelque sorte. Et est-ce que vous avez le sentiment, Ike Dekker, que c'est quand même possible de travailler ou d'agir avec des personnes extérieures à ces collectifs, ou est-ce que vous avez tendance à vous retrouver entre vous?
Mais nous, par exemple, sur le travail de semences, on se retrouve, puisqu'on est loin de la coopérative française, on se retrouve bien avec deux autres Allemands qui sont assez proches de chez nous, aussi bien qu'avec le membre de la coopérative Longomaille en Mas de Grenier ou à Grangeneuf. Non, en fait, tu peux trouver toujours des liaisons, comme on travaille bien avec les gens qui appartiennent aux Archinois en Autriche. C'est aussi des gens où, émotionnellement...
L'Arche de Noé.
L'Arche de Noé, oui. C'est des gens où on se sent proche humainement. On a fait une fois une rencontre à Graz et puis on a préparé ça ensemble. Et dès la première rencontre, on a senti, mais on s'entend aussi sur le plan humain, quoi. Et ça, c'est très agréable. Et en fait, des gens comme ça, tu le trouves partout.
Et dans toutes les générations?
Oui. Surtout d'ailleurs, c'est plus facile avec les plus jeunes.
Ah oui?
Oui. Ouais, en fait, là, en tout cas, avec le travail de semences, c'est trop drôle qu'on s'entend très bien avec de plus jeunes, s'ils sont étudiants ou s'ils font du guerrilla gardening dans des villes, si c'est à Amsterdam ou à Graz ou à Vienne ou à Berlin. Parce qu'il y a une grande ouverture et il y a un attitude, comment tu dis ça, de l'envie de faire aussi des aventures, quoi, de faire des trucs qui ne sont pas forcément déjà codés et arrêtés dès le début. Et ça, avec eux, on s'entend très bien. Dans ce travail-là, on a plus de mal de travailler avec des gens qui sont vraiment des professionnels, qui sont déjà toute leur vie, ils ont investi là-dedans, qui doivent y vivre. Ça, c'est aussi un problème. Tu n'es pas d'accord sur un plan politique, en fait, parce qu'il s'avère seulement qu'eux, ils sont dépendants financièrement de ce qu'ils font. Et ça, ça fait souvent, ils sont eux-mêmes pris entre deux chaises parce que politiquement, au fond d'eux-mêmes, ils sont bien d'accord avec nous, mais à l'autre côté, ils doivent quand même vivre de leur boulot.
Jürgen Holzapfel, quand on rentre dans cette exposition de Longomaille 40 ans à Bâle, on est accueilli par un tracteur, un vieux tracteur, tout repeint en rose. Et puis juste un peu plus loin, il y a un outil agricole qui a l'air d'une antiquité. C'est un cultivateur un peu rouillé, d'antiquité, parce qu'il a l'air très frêle et qu'il est très loin des machines agricoles qu'on connaît aujourd'hui. Et puis il y a des photos et des films de chevaux qui labourent, qui tirent, qui débardent dans une forêt. Pour résumer, on a l'impression d'être en face d'images du passé, du monde d'hier. Or, c'est ce monde-là que, à Longomaille, dans les différents collectifs de Longomaille, on a choisi de privilégier par rapport à tout ce que la modernité pouvait apporter. Alors pourquoi? Est-ce que c'est une volonté de retour vers le passé? Est-ce que c'est un goût esthétique pour la beauté des objets façonnés à la main?
Je crois que la modernité, le développement technique surtout, fait qu'on maîtrise de moins en moins le matériel qu'on utilise pour quoi que ce soit dans la vie quotidienne, dans le ménage, dans l'agriculture, dans l'artisanat.
En fait, les outils nous dépossèdent aujourd'hui.
Complètement, oui. On est obligé de suivre le fonctionnement de l'outil et ne pas demander à l'outil de faire ce qu'on veut faire, nous. Et ça, c'est un retour à une époque avant ce développement de modernité fausse qui dépossède les gens pour retrouver la maîtrise de ce qu'on veut faire. Et là, il y a beaucoup à redécouvrir. Et c'est vrai qu'on commence avec des choses très simples comme les vieilles herses à cheval ou les vieilles charrues à cheval et qu'on peut adapter, qu'on peut changer, qu'on peut bricoler et puis finalement on trouvera et on trouve ce qui va bien pour le sol, ce qui fait le travail qu'on veut faire et qui nous donne un résultat satisfaisant, tandis que dans une machine moderne, eh bien, si elle ne fait pas le travail qu'on veut, on est obligé d'en acheter une autre. Et puis, on ne trouvera jamais celle qui va pour le sol parce que c'est des machines unifiées pour une agriculture industrielle. Donc, ce n'est pas dans l'objectif d'un retour conservateur dans le passé, mais c'est dans l'objectif d'une redécouverte de l'emploi de la technique pour un avenir. Un avenir qu'on arrive à maîtriser. Nous, les hommes, les gens qui ont affaire et qui s'intéressent au fonctionnement de à la production.
Ce choix que vous faites, il a un coût assez important, c'est le coût du temps. Ça vous demande énormément de temps, d'une part pour apprendre à utiliser ces outils, d'autre part pour apprendre à les entretenir, à les refabriquer éventuellement, toutes choses qui sont faites, effectivement.
C'est quelque chose qui va aussi contre la modernité. On n'a pas le temps. Mais effectivement, il faut se prendre le temps, il faut, faut se donner les moyens de trouver le temps. Parce que c'est lent, je le vois dans le travail avec les chevaux qu'on fait. C'est une recherche permanente, c'est des changements permanents, jusqu'à ce qu'on arrive à un bon résultat. C'est une expérience que je fais au niveau du travail avec les semences. C'est très lent pour retrouver une maîtrise des semences qu'on peut utiliser dans les champs qu'on travaille.
Vous parlez du travail sur les semences. Il y a le travail que vous faites de recherche, de choix. Je ne veux pas dire de sélection parce que c'est un terme justement très connoté. Mais il y a les semences que vous choisissez, que vous privilégiez parmi d'autres, en particulier dans les céréales pré-industrielles. Et puis, il y a aussi tout l'aspect lutte, là encore, non pas contre les éléments, mais contre le système qui voudrait imposer certaines semences et à certaines conditions. Là encore, c'est une dépossession.
C'est une dépossession complètement. Et là, c'est un exemple typique d'un faux développement aujourd'hui dans la sélection des semences, qui dépossède les paysans en fait de la maîtrise de la semence, et qui force le paysan à racheter ce produit, plusieurs produits, pour que la semence qu'il a achetée donne un résultat, pour que au niveau économique il s'en sorte. Nous on a l'exploitation collective qu'on a en Allemagne de Longomai, on a fait une comptabilité dans le style des comptabilités d'une exploitation agricole, par une entreprise de comptabilité de la région. Et puis après quelques années, j'ai demandé au comptable, mais comment vous situez notre exploitation par rapport aux grandes exploitations qui sont autour? Et il m'a dit, ben, vous êtes dans la moyenne. Alors qu'on brasse, non pas des millions, mais qu'on travaille avec des moyens relativement simples, avec une petite surface, mais qu'effectivement les investissements qui sont pratiqués dans l'agriculture industrielle sont tellement énormes, et le résultat, si on fait le bilan, n'est pas meilleur que le résultat d'une petite ferme qui travaille avec des petits moyens et avec des semences reproduites à la ferme. Et donc pas ces semences ultra productives qu'on prétend avoir besoin aujourd'hui. C'est d'autant plus frappant parce que les exploitations autour de chez nous, c'est des exploitations de 1000, 2000, 5000 hectares.
Et chez vous à Ollenkrug?
Nous cultivons 50 hectares avec une vieille agriculture mélangée entre élevage, agriculture, jardinage, fruitier. Donc il y a un peu tout. N'empêche que les résultats, c'est comme comparable en tout cas. Ça me travaille beaucoup parce qu'on a affaire avec aujourd'hui toute l'argumentation qu'il faut alimenter, augmenter la production dans les pays soi-disant sous-développés, leur apporter notre agriculture moderne et tout ça. Et là, je dis non, la preuve, on l'a ici chez nous, que c'est pas vrai. C'est pas ça qui leur apportera une meilleure alimentation. Et ça, là, on arrive effectivement dans une bataille actuelle très importante. C'est quoi le développement que nous voulons proposer? Et je crois que ce qu'on fait à Longomaï, c'est l'essai de créer petit à petit un autre développement, même si on est loin à pouvoir avoir des réponses à tout.
Mais alors, justement, Jürgen Holzapfel, est-ce que à Uhlenkrug ou dans d'autres coopératives de Longomaï, vous arrivez à l'autonomie alimentaire? Est-ce que vous pensez pouvoir y arriver un jour, si ça n'est pas encore le cas? Et est-ce que vous souhaitez y arriver? Et je pose cette question justement par rapport à cette notion de région et à cette notion d'échange.
C'est dans nos utopies, une économie régionale qui se complète, où l'un produit plutôt ça et un autre plutôt ça, et puis on s'échange et tout ça. Dans notre région, en Allemagne de l'Est, avec l'agriculture industrialisée, c'est difficilement réalisable et nous sommes obligés en grande partie de développer tout dans un petit rayon de nos 50 hectares. Donc nous avons construit un abattoir pour pouvoir tuer les bêtes chez nous, parce que l'abattoir à 80 km, il tue 2000 bœufs par jour. Et puis on ne sait pas si c'est notre bœuf qu'on retrouvera là-dedans. En tout cas, ça nous est arrivé d'en trouver, qu'on nous donne un autre animal. Et c'est au niveau de semences, on est obligé d'avoir nous-mêmes toutes les installations pour nettoyer les grains, pour les sécher, pour les stocker. Au niveau de la production des semences de légumes, c'est encore des appareils différents, c'est du tamis, il faut tout avoir, des séchoirs et tout ça. Donc à tous les niveaux, on redéveloppe une infrastructure, une structure qui en fait serait mieux développée à un niveau régional que moi je vais à un endroit pour nettoyer mes semences, mais où les autres viennent aussi. Donc là, c'est dans cette optique-là qu'une économie régionale arriverait à ce qu'on veut par une autonomie alimentaire. C'est difficile, c'est une utopie de croire qu'on peut le faire sur un petit coin isolé.
Bertrand Burolet, c'est la première fois que Longomaï fait une exposition de quoi? D'autocélébration, d'autocritique, d'auto-histoire?
C'est une exposition pour montrer ce qu'on est, après 40 ans en fait. Alors auto-célébration, histoire, c'est un peu un mélange. Mais ce qu'on voulait, nous, dans cette exposition, c'est montrer le présent de Longomaï, partir du présent, rentrer dans les coopératives, les 10 lieux de Longomaï, et après arriver vers le passé. Mais pas raconter les 40 ans d'une histoire, parce que là, il y a trop de gens qui ont participé à cette histoire. Il y a eu à peu près toujours le même nombre de gens en permanence à Longomaï, et dans les 200-250, mais il y a des milliers qui sont passés et qui ont fait cette histoire, donc elle serait trop compliquée à raconter. Parler de ce que c'est aujourd'hui, c'est plus simple.
De fait, Bertrand Burolet, comment est-ce qu'on peut faire coexister des générations quand on est soi-même issu d'un groupe qui a rejeté les générations d'avant? Et comment est-ce qu'on peut faire la transmission quand on a soi-même refusé ce qui venait de la génération précédente? Comment est-ce qu'on peut inventer peut-être une nouvelle façon de coexister à plusieurs?
Mais en fait, c'est difficile de répondre à ça, mais je crois que le point essentiel, c'est qu'il faut essayer de trouver ce qui est en commun entre tous ces gens. Et je crois, D'un point de vue politique, il y a une chose qui est en commun, c'est le refus de la société dans laquelle on vit aujourd'hui, pour ceux qui arrivent aujourd'hui à Longomaille, ou dans laquelle on vivait il y a 30 ans ou 40 ans. C'est le même refus. Donc c'est l'idée de chercher autre chose.
Pas exactement la même société.
C'est plus la même société, mais il y a le même refus de cette société et la même recherche d'autre chose. Ce qui est un peu miraculeux, c'est que on peut être une alternative il y a 40 ans et être une alternative aujourd'hui. Ça, je n'ai pas très bien compris comment c'est possible, mais ça se fait, et c'est peut-être par la succession des générations et des arrivées perpétuelles. Et dans les points communs, je pense aussi, c'est cette acceptation de mettre tout ensemble. Donc, pas de salariat, la caisse commune, la vie communautaire, ça veut dire prendre ses repas ensemble la plupart du temps, des choses comme ça, font des liens très forts qui vont être beaucoup plus fort que les divergences politiques qui existent toujours. Parce que à l'intérieur de Longomaille, on n'est pas tous sur la même ligne, on n'a pas tous la même manière de penser ni d'analyser les choses. Mais la solidarité faite par la vie en commun, je crois, prend le dessus sur tout le reste.
L'importance du quotidien, c'est quelque chose qui revient énormément, effectivement, pour les uns et les autres.
Mais c'est même marrant parce que moi, je finis par trouver que c'est ça qui est la chose la plus politique de Longomaille, c'est la manière de vivre ensemble. Différemment de ce qu'on propose actuellement dans la société, où d'ailleurs on va plutôt vers l'éclatement même de la famille, c'est-à-dire c'est l'individu maintenant tout seul. Et cette proposition de vivre complètement en groupe, je trouve ça foncièrement politique, peut-être même plus que les actions qu'on mène de solidarité ou de dénonciation de telle ou telle chose dans l'agriculture ou des choses comme ça, quoi.
Quelque chose qui est assez impressionnant, me semble-t-il, à Longomaille, c'est la capacité que les gens ont à apprendre et à enseigner.
Oui, mais je ne sais pas d'où ça vient. Mais moi, je raconte ça dans la petite vidéo qu'il y a dans l'exposition, puisqu'il y a 63 vidéos d'une minute, où ceux qui voulaient pouvaient raconter un peu leur histoire de Longomaille à partir d'un objet. Et moi, je dis effectivement là-dedans tous les métiers que j'ai appris. Et j'ai commencé par tailler les pierres, être bûcheron, être maçon, être berger. Et ensuite, j'ai fait du vin, de la radio, etc. Et aujourd'hui, j'apprends à d'autres ce que j'ai appris. Donc c'est un cycle de voilà, apprentissage, formation, et moi je continue d'apprendre des choses.
Voilà, cette émission est maintenant terminée, mais pas l'exposition qui retrace ces 40 années, qui se tient actuellement à Genève, qui circulera ensuite en Suisse avant de venir l'année prochaine en France. En attendant, vous pouvez toujours réécouter ou télécharger cette émission sur notre site franceculture.fr. Vous pouvez également nous téléphoner au 01 56 40 36 72 ou nous écrire à Terre à Terre, France Culture, 116 avenue du Président Kennedy, 75 220, Paris, CEDEX 16. Terre à Terre vous est proposé par Ruth Stegassi, préparation, documentation Laurence Genepin, Anne Gouzon, mixage Pierrick Charles, réalisation Jean-Christophe Francis. Bonne semaine à tous.